inédit de la guerre économique sur fond d'espionnage.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Une très bonne après-midi sur France Inter, il est 15h04, l'heure de retrouver là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Oui, dis donc Daniel, ça chauffe toujours aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Alors pour les auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, il y a jusqu'à 1000-1200 CRS qui sont face aux agriculteurs, aux habitants et aux squatteurs sur la ZAD. La ZAD, zone à défendre, est maintenant zone d'autonomie définitive.
Bonjour, c'est Marie qui habite Notre-Dame-des-Landes, habitante de la ZAD, la zone à défendre. On est un petit peu épuisé par cette occupation militaire et là c'est un peu un cri, enfin voilà, je comprends pas qu'il est 21h ce soir, à peine un habitant parti, que les gendarmes mobiles sont là à détruire la maison. En fait c'est un nettoyage qui se passe. On est heureusement tous solidaires, occupants, habitants, associations. Et on avait juste, j'avais juste envie de faire une citation de Günther Anders. Le courage, je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation, je n'en ai pas encore besoin. L'espoir, je ne peux vous répondre qu'une chose. Par principe, connais pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes mis, alors il faut le faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
En écoutant l'émission là, d'aujourd'hui, en tout bon record tatoué que je suis, j'avais pas mal d'a priori sur la scène rap en général, mais je suis tombé sur des groupes de rap conscients comme La Rumeur, Scalpel ou La Cabine. Et bon, c'est des gars qui ont des choses à dire, et je suis vraiment devenu fan de ces trucs-là. Pour reprendre des graffitis qui fleurissent à Marina Leda, j'ai envie de dire, éteins ta radio et ouvre ta conscience.
Ouais, salut Daniel, Christophe de Rouen. Je suis enchanté de l'émission que j'ai entendue aujourd'hui concernant le groupe La Rumeur, que j'ai découvert par le biais de mon fils. Par contre, je suis heureux de lui avoir fait découvrir un autre groupe de rap bien, bien intelligent. C'est tout simplement La Canaille. La Canaille, premier groupe de rap anarchiste à découvrir pour tout le monde.
Karl Marx nous a appris que le travailleur produisait des richesses. Mais depuis quelques jours, le grand patron d'entreprise, Louis Gallois, nous explique que le travailleur est un coût. Alors qui a raison? Le philosophe Karl Marx ou le grand patron d'entreprise, Louis Gallois? Pour vous aider, je vous donne un indice. En 1996, Louis Gallois est mis à la tête de la SNCF pour 10 ans. Maintenant, les médias racontent à qui veut bien l'entendre que Louis Gallois a remis sur pied la SNCF. Sauf qu'il y a une astuce. En effet, Louis Gallois a créé en 1997 le réseau ferré de France, à qui il a donné une grande partie des dettes de la SNCF. Vous me suivez toujours? Alors aujourd'hui, le réseau ferré de France est endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Et notre gouvernement va rassembler à nouveau le réseau ferré de France et la SNCF pour réparer la bourde de Louis Gallois.
Une révolution copernicienne, rien que ça. Si on n'a pas le sens de la formule au gouvernement, on n'a pas en revanche celui du ridicule. Bref, entre cette révolution planétaire du pacte de compétitivité, entre l'élection américaine et le mariage pour tous, qui sont autant d'écrans de fumée providentielle, il y a quand même une petite information qui a filtré sur les ondes de France Inter il y a deux jours. À savoir que nos amis allemands des laboratoires Merck refusent désormais de fournir leurs médicaments contre le cancer aux hôpitaux grecs, au motif que ceux-ci ne peuvent plus payer leurs factures. Alors vive l'Europe solidaire et fraternelle, et vive le traité européen et vive la démocratie.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de France, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet. Et depuis plus de 3 ans maintenant,
les gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
À Notre-Dame-des-Landes, ils nous expulsent. On riposte. contre l'aéroport et le monde qui va avec. Grande manif de réoccupation le 17 novembre.
Pour plus d'infos sur la lutte ainsi que les dates et lieux des manifestations, rendez-vous sur le site zad.nadir.org.
Et voilà un cas de détournement de la radio nationale par la concurrence. C'est Radio Klaxon que vous venez d'entendre et qui n'hésite pas à utiliser la radio nationale pour vous inviter, vous convoquer presque à une manifestation à Notre-Dame-des-Landes pour le 17 novembre. C'est quand même force, hein, c'est d'une subversion, mais alors c'est incroyable. Mais il y a des terroristes probablement parmi ces gens-là, des minorités violentes venues d'ailleurs, probablement. C'est en tout cas ce qu'a été dit par la préfecture de Notre-Dame-des-Landes. Des minorités violentes venues d'ailleurs. Oui, qui sont là dans les bocages nantais et qui ne rêvent que d'une chose, c'est évidemment subvertir et envahir notre pays. Vous avez compris, nous sommes à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui avec Antoine Chao à la demande générale. Ça, on peut dire que l'heure que nous allons passer, c'est à la demande générale. Vous avez été très très nombreux à nous adresser des messages, des mots, des mails et tout pour qu'on vienne voir ce qui se passe là-bas. Et effectivement, c'est absolument passionnant et on va essayer de partager ça ensemble jusqu'à 16h. Ça s'appelle « Les vaches n'aiment pas l'avion ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, il y a une petite usine à Revin détenue par un grand groupe, le groupe Electrolux, qui a annoncé la fermeture de cette petite usine à Revin dans les Ardennes. Fermeture programmée pour 2014. Alors il y a une pétition sur Internet qui circule contre la fermeture d'Electrolux Revin sur le site pétition24.net et un groupe Facebook contre la fermeture de l'usine Electrolux de Revin. Voilà, donc rejoignez-nous nombreux pour essayer de faire en sorte que le groupe suédois Electrolux ne passe pas à l'action.
Bonjour tout le monde, c'est Françoise du repère d'Anner dans les Hautes-Pyrénées pour vous parler de notre repère de ce mois-ci qui aura lieu ce vendredi 9 novembre autour de la projection du film de Jérôme Lemaire, Le thé ou l'électricité. C'est l'histoire épique de l'arrivée de l'électricité dans un petit village isolé et enclavé au cœur du Haut-Atlas marocain. Un ami berbère sera là pour nous accompagner pendant le grignotage et vers 20h bien sûr, puis la projection vers 21h et la discussion qui suivra. Voilà, nous vous attendons nombreux pour venir partager cette soirée.
Oui, salut Daniel, salut toute l'équipe. Alors voilà, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'habite à Cioto, dans la Manche. Et je t'appelle en fait parce que hier j'ai eu l'immense joie de recevoir mon examen d'entrée à l'école des avocats. Et bah tu dois te dire c'est quoi le rapport avec là-bas, bah voilà, c'est juste que bah je peux pas m'endormir sans écouter tes émissions. Et je voulais te remercier parce que bah grâce à toi, Charlotte Perry, Antoine Chao, qui sont mes deux journalistes pref, vous avez contribué à ma victoire d'hier, parce que voilà, vous avez régulé mon sommeil et vous m'avez évité de me retrouver chaque soir seule avec ma conscience à cogiter. Donc voilà, pour ça je voulais vous remercier, mille merci. J'espère que l'émission va encore durer vraiment longtemps. Merci encore et vive là-bas!
Pour soutenir la lutte des défenseurs de Notre-Dame-des-Landes contre les expulsions, la répression et l'acharnement du Premier ministre à poursuivre le projet mégalomaniaque d'aéroport à Nantes, Alternative Libertaire organise un rassemblement devant la mairie de Lannion samedi 10 à 11h.
J'habite ici! Je reste ici!
Non aux expulsions!
Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Cécile Duflot était venue y planter un chêne en solidarité aux anti-aéroports. Maintenant, elle est ministre du Logement. Et ce sont des CRS par centaines et des pelleteuses qui, en ce moment même, détruisent les maisons, mettent les jeunes qui y habitaient dehors à la veille de l'hiver. Bravo, Madame la Ministre. Vous pouvez venir voir votre chêne. Il va bien, mais certains y pissent aux pieds.
Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard, il faut se mobiliser de plus en plus. Au Carnet, on a gagné, au Larzac, on a gagné, à Notre-Dame, on va gagner.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que je suis avec Antoine Chao. Les vaches n'aiment pas l'avion.
Flight number 2, arriving from...
Là, c'est vraiment le bocage là, du coin. Tu vois toutes les haies, t'as plein de chênes partout. Là, avec la brume, c'est super. Là. Et ici, en fait, tout le coin, tu vas voir, c'est vraiment qu'une zone humide. Et puis cette brume, en fait, par exemple, le matin, t'as vraiment la levée de la brume là sur les prairies. Parce que t'as que de la prairie ici, beaucoup de vaches. C'est juste magnifique. Il n'y a pas eu de remembrement, en fait. Là, il a beaucoup plu, alors tu vas voir tous les fossés qui débordent. Et vraiment, ça donne ce paysage particulier. Ça donne aussi toute la faune et la flore là, du coin qui sont... unique dans le coin, ouais.
Alors c'est paradoxalement parce qu'il y avait ce projet d'aéroport que ça n'a pas bougé, quoi.
Ouais, c'est pour ça. Maintenant, comme il ne va pas se faire, après, c'est bien. Hein. On va continuer à entretenir les hein.
Toi, tu habites dans le coin?
Ouais, moi j'habite dans le coin. J'habite dans une commune qui est pas très loin, là, qui borne d'ici. Quoi.
Voilà, bienvenue à Notre-Dame-des-Landes. Alors, on est au cœur de la résistance. Hein.
C'est le triangle des Bermudes, on pourrait dire ça comme ça. C'est là où va être construit, enfin où Vinci espère construire son aéroport. C'est là où ça se passe, c'est là où il y a les expulsions, c'est là où les policiers s'y trompent pas, hein, c'est là où ils quadrillent, c'est là où les hélicos patrouillent.
Là, il y a une maison avec marqué 20 citations à la révolte. 20 citations à la révolte, d'accord.
Là, on est au lieu dit les Ardillères. Donc voilà. Bon, là, tu vois, il y a une barrière anti-squat qui a été mise.
La maison a été murée, quoi, c'est ça. Il y a une fenêtre qui a été.
C'est une grille en métal. Et la ferme du Sabot qui n'est pas expulsée là-bas, plus loin, c'est une terre qui a été défrichée suite à une manifestation. Il y a des gens qui sont installés comme en maraîcher. Et il y a une chèvrerie pas loin, il y a plein de choses. Donc voilà, là on arrive.
Alors on arrive à la vacherie.
Ouais, on y est.
La vacherie, voilà. Et c'est un hangar hein, agricole.
Mmh. C'est le point de rendez-vous là pour tout le monde.
Ah, c'est un peu gadouilleux, ouais.
Croissant, on connaît tout ce petit monde. Ça braille, ça traîne, c'est pas méchant. Voilà. Et, sauf que ils sont têtus quand même. Hein? Ils sont têtus et ils sont de moins en moins seuls à venir constater vers Notre-Dame-des-Landes que les vaches n'aiment pas l'avion. Voilà, les vaches n'aiment pas l'avion. Pourtant, tout est fait pour leur donner envie à Notre-Dame-des-Landes, dans ce joli bocage nantais. Un bel aéroport tout neuf sera bientôt construit. Et c'est une chouette idée défendue par M. Hérault, notre Premier ministre socialiste. Mais alors, vous connaissez... les Français râleurs et rétrogrades, avec ces, en plus tout cela là que vous entendez là. Et tout ça, ça fait quand même aujourd'hui que plus de 70% de ces Français sont hostiles à ce grand projet pourtant indispensable. Et ils vont même jusqu'à manifester et même à s'installer dans des maisons alors qu'ils n'ont même pas le droit. Et je le disais en commençant, parmi eux, selon la préfecture, se trouvent, je cite, « des minorités violentes venues d'ailleurs ». Mais heureusement, M. Hérault envoie les forces de l'ordre pour cogner sur tout ça. Il est très courageux, M. Hérault. Alors ça, c'est très, très courageux. Et voilà, pour voir tout ça, ça nous a donné envie d'aller voir sur place. Et c'est Antoine Chao qui est là avec ses bottes dans le bocage. C'est en train de tourner un petit peu à la guérilla, cette histoire. C'est en train un petit peu de tourner au Larzac. Ça a duré 10 ans, le Larzac. Et ça n'a pas fini en faveur du pouvoir, le Larzac. Et ça en a coulé des élus et des gouvernements, le Larzac. Il faudrait faire très très attention. Il y a de très grandes divisions politiques autour de ce projet de transfert d'aéroport. Il y a des divisions, il y a des écolos qui étaient contre et qui maintenant sont dans le gouvernement de M. Hérault. Il y a le Parti communiste qui est plutôt pour l'aéroport, alors que le Front de gauche, si on l'a bien compris, est plutôt un petit peu contre. Il y a M. Fillon qui est pour. Ça fait d'étranges divisions, cette histoire, sur le plan politique. Et puis, sur le plan local, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien nécessaire? C'est à ces questions que certains ont inconditionnellement d'ores et déjà répondu, mais que d'autres aussi se rallient après réflexion. Bref, il y a là quelque chose d'énorme, quelque chose qui dure depuis des années et des années. Ce projet, je crois, est né dans les années 60, le projet d'un aéroport. Et puis, il fallait absolument quelque chose pour faire partir le Concorde. Ah, le Concorde. Et puis après, on est passé à autre chose. Et puis, dans les années 70, il y a eu la crise pétrolière. Alors, on a mis ça un petit peu sous le tapis. Et puis, c'est revenu récemment. Et donc, c'est défendu. Mais alors, et comment, avec quel courage, par M. Hérault, notre Premier ministre, pas seul, bien évidemment. Alors, ce qu'on vous a dit en commençant, c'est que le samedi 17 novembre, à Notre-Dame-des-Landes, il y aura une grande manifestation pour la réoccupation. Ça veut dire que si on veut réoccuper, c'est qu'on a été viré. Et c'est ce qui se passe actuellement. J'espère que vous êtes au courant et que vous suivez tout ça. Le 17 novembre, il faudra venir avec fourche, poutre, planchette, clous et outils en main à 11h depuis un village proche de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre à l'appel d'occupantes et d'occupants du collectif solidaire. En attendant, voici ce que Antoine Chao a vu et vécu à Notre-Dame-des-Landes, là où les vaches n'aiment pas l'avion.
Non aux expulsions !
Non à l'aéroport !
Non aux expulsions !
Non à
l'aéroport ! Non aux expulsions !
Non à l'aéroport !
Non aux expulsions !
Non à l'aéroport !
Mes cousins, te souviens-tu, les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003, c'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe, forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresses. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse, rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high-key dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de cocoutos, goutte à goutte, pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villages, ces gays-là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la RIA. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yo Mango. Comme l'Assemblée populaire des peuples de Wafaka. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terres, comme les anti-nucléaires. Comme Essel, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Ispira Sankara, ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour, les
restaurants
de nos vies.
Nous à l'aéroport, nous aux expulsions.
Pour stopper les industriels et faire cesser les dégâts. Pour se remonter les manches et dévisser tout la radar. Pour plus confier les mallettes à tous ces paiements de l'ENA. Pour coûte que coûte, on goûte à goûte, pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Au moins quand on rusait à l'occasion, la foule est en roi.
la vacherie. De ce lieu tu pars, a dit le petit chef. Je veux en faire, E-N-F-E-R, mon airport, les lucifières. Alors ici, on est chez vous, Sylvain.
On est dans un hangar qu'on a transformé en salle de réunion et en lieu de résistance. Vous voyez, là, c'est un peu du free shop, ils appellent ça. C'est les gens qui viennent soutenir les jeunes de la ZAD ont amené des vêtements, des bottes, des pluies, de la bouffe. Voilà, c'est un peu le lieu stratégique pour repartir après, pour que les jeunes repartent après sur dans leur squat respectif. Il y a une salle de repos, il y a l'écurie qui est prévue bien pour le repos. Il y a la bouffe, c'est un endroit sec, chauffé. Enfin, il y a un peu de feu pour que les gens se prennent des vêtements chauds et sèchent leurs vêtements. Voilà, c'est un lieu stratégique par rapport à ça. Multilangage aussi, il y a des traducteurs dans toutes les langues et c'est très bien. Ça veut dire que ça bouge, il y a des gens qui viennent de loin et ça veut dire qu'on est aussi écouté de loin.
Mais vous, Sylvain, vous venez pas de loin, vous êtes d'ici.
Moi, je traverse la route. Notre exploitation est de l'autre côté de la route et on a mis à disposition ce local.
Et depuis plusieurs générations, c'est ça ?
Moi, je suis la cinquième génération de Fresno ici. C'est donc le premier des Fresno qui a défriché les terrains que Vinci veut bétonner. Donc, vous comprendrez que je suis complètement contre ce projet. Et pas seulement pour nous. Il y a 145 aéroports en France, il y en a 45 en Allemagne. Il y a autant de passagers transportés dans un pays que dans l'autre. En même temps, il faut arrêter de gaspiller de la terre agricole. C'est pas du nombrilisme qu'on veut faire, c'est défendre la profession. C'est défendre aussi une idée de société, de dire arrêtons de gaspiller de la terre agricole. Le département de l'Atlantique, par exemple, est le premier département le plus gaspillé de terre agricole pour l'urbanisation. Alors, faut arrêter, on perd plus de 2000 hectares par an pour urbaniser.
2000 hectares sur la Loire-Atlantique.
Sur la Loire-Atlantique. C'est un département tous les 7 ans qui disparaît sous le béton ou sous le bitume. C'est des routes,
sur
c'est
la
des
lotis. Ouais.
Faut arrêter, À un moment, on se dit, faut peut-être reconstruire la ville sur la ville, faut peut-être arrêter de faire des aéroports. L'aéroport de Nantes-Atlantique, avec 3 millions et des brouettes de passagers actuellement, qui peut aller jusqu'à 6 ou 7, il fait 330 hectares. Là, on veut démarrer à 3,5 millions ou 4 pour aller jusqu'à 9 avec 1650 hectares. Arrêtons de gaspiller, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et ce qu'on répète souvent, c'est que ce n'est pas du nombrilisme, on défend aussi pour la France, pour la planète. Je veux dire, c'est une idée beaucoup plus généraliste que de sauver sa propre peau. C'est le GAEC, on est 3 associés dans le GAEC, on se bat contre ce projet, mais ce n'est pas parce que nous on est touchés particulièrement, c'est parce qu'il faut arrêter des projets de société comme ça.
Et vous ici, vous êtes exproprié, c'est ça ? Vous êtes vraiment en pleine zone de construction de l'aéroport ?
Ah oui, on est en pleine zone. Donc vous voyez, la vacherie est sous le projet d'une piste. La maison qui est de l'autre côté de la route, on est sous une piste aussi.
Ici, on serait sur la piste.
Sur la piste. Donc le village que vous voyez ici, il y a 5 maisons, il serait complètement rasé. Ce qu'on nous dit, de chaque côté, à 100 mètres de chaque côté de la piste, ce serait rasé. Donc oui, le village ici serait rasé.
La vacherie, c'est un clin d'œil au Larzac, c'est ça ?
C'est un clin d'œil au Larzac. Larzac, c'était la bergerie, leur lieu de résistance. Il y a certains d'entre nous qui y ont été. Moi, j'étais trop jeune, mais il y a certains d'entre nous qui y ont été. Et c'était aussi un clin d'œil. José Beauvais et puis les gens du Larzac sont venus plusieurs fois ici. Et en plus, la vacherie, on peut l'écrire en 3 mots ou en 2 mots. Voilà, c'est aussi une vacherie, ce projet-là d'aéroport. Donc c'est un double clin d'œil.
Voilà, donc là, il y a matériel souhaité, il y a une petite pancarte là sur le mur, lampe frontale, gants de chantier, bâche, grand miroir.
C'est quand les gendarmes mettent leur projecteur, tu mets un miroir pour envoyer la lumière.
Sérum physiologique, outils, type SI, masse, du matos d'escalade aussi, des mousquetons, etc., des palettes, des poutres, des tôles, des planches.
Ça, c'est pour reconstruire les outils. L'idée, c'est de réhabiter la zone, la ZAD.
Alors là, il y a une distribution un peu de nourriture.
Là, c'est la cuisine. Donc, on a été rejoint par tous ces jeunes. Ils sont installés. Ils ont l'aide de la population qui a envoyé de la nourriture, des vêtements et tout ce qu'il leur faut dans un hangar qui est le siège de notre association.
Claude Collard.
Donc de la CIPA.
C'est l'association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport qui a été créée en 2000. Et qui se bat depuis cette époque-là contre le projet. 3400 adhérents environ. Il y a toute la population qui se bat contre le projet depuis 2000, et même pour certains comme moi depuis 1974. mais on a été rejoint par une population qui occupe le terrain. Donc voilà, des gens se sont installés dans des fermes abandonnées, rachetées par AGO Vinci. Donc
AGO, c'est Aéroport du Grand Ouest, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors AGO, c'est 80% d'action Vinci, 10% à la Chambre de commerce Nantes Métropole. Et 10% à une société qui s'appelle ETPO, une société de travaux publics. Voilà. Mmh. Les gens se rendent compte que ce sont des jeunes qui ont un idéal et qui viennent pour défendre une cause qui les concerne aussi. Ils sont retranchés là, mais avant ils étaient installés, certains y sont encore, dans des cabanes dans les arbres, des yourtes, des caravanes. Un peu partout dans la nature, et que les 500 flics sont en train de dégager là, mais ils n'ont pas fini leur travail, parce que à mesure qu'ils les dégagent, ils se replient ici pour se réinstaller quand ils ont le dos tourné. Voilà.
On est solidaires.
On est solidaires.
Franchement,
c'est toi qui donne les ordres. Jean-Marc Ayrault, merci. Hollande, merci.
Nous,
les expulsions.
Nous,
les expulsions.
Moi, je m'appelle Jérôme. J'habite sur la ZAD depuis maintenant 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne fait que survivre. Et là, j'ai essayé avec d'autres, collectivement, d'organiser ma vie. Et ici, il y a cette possibilité qu'il y a d'espace, un espace naturel, un espace qui est de qualité. Non seulement une qualité environnementale, mais une qualité relationnelle avec les gens. On a plein de voisins sympas, des gens, des natifs. Et on arrive à créer une vie meilleure, quoi, une vie qui nous ressemble. Une vie qui est faite de solidarité, d'autonomie, d'émancipation, une certaine liberté, quoi. Et ça, on aime ça, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un projet d'aéroport qui tente de détruire tout ça, quoi. Ils veulent bétonner ce que nous, on appelle la ZAD, qui est la zone d'aménagement différé, mais qui est pour nous la zone à défendre. Et on la défend, comme on peut, avec nos petits moyens. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la politique de la répression, c'est la politique du bulldozer. Et on pousse tout, on fait du gros nettoyage en détruisant les maisons qui ont été habitées pendant des centaines d'années. Et la tristesse dans tout ça, parce qu'il s'agit bien d'une tristesse, c'est que les politiques qui nous gouvernent ne s'aperçoivent pas de la grosse erreur qu'ils sont en train de faire, du mensonge et du déni dans lequel ils sont depuis des années, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous proposer un monde meilleur, mais c'est un monde dont on ne veut pas. De l'enfermement, quoi. L'enfermement dans des cages à poules, dans du béton armé. Et voilà que nous, aujourd'hui, on a envie de dire non aussi, à notre manière, on a envie de résister. Et cette résistance, elle s'organise et elle s'amplifie. Parce que là, ils sont en train de démolir aujourd'hui, parce que Vinci, c'est bien une entreprise de démolition, c'est ce qu'on est en train de voir, quoi. Et que là, les messages de sympathie qu'on reçoit sur notre site zad.nadir.org, par exemple, ils sont hyper nombreux. On s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'est pas seul. Et quand, après cette première vague d'agressions policières, quand on a fait un appel à des actions de soutien délocalisées, on voit qu'il y a eu des répondants, que partout en France et même au-delà de l'Hexagone, il y a des gens qui soutiennent notre action et qui disent à Notre-Dame-des-Landes, ils ne sont pas que quelques pecnos à se battre pour un bout de terre. Vinci, c'est une pieuvre tentaculaire, mais nous, comme moyen de résistance, on a cette énergie du collectif. Et aujourd'hui, cette lutte, elle est collective, elle est pensée collectivement. Il y a eu jusqu'à présent des initiatives en construisant des lieux nouveaux avec des moyens de production, en légumes, les chèvres, des productions de chèvres pour produire du fromage. Il y a eu du pain qui a été fabriqué, qui est toujours en train de se faire d'ailleurs à l'heure où je parle, quoi. Toutes sortes d'expériences agricoles à droite et à gauche, en lien avec les gens, avec les locaux, en lien avec des paysans, en lien avec des habitants qui ne sont pas paysans. Et tout ce beau monde a réussi à fonctionner et fonctionne encore. Mais maintenant, on fonctionne dans le drame, au milieu des gravats, au milieu de la police, en dessous des hélicoptères qui sont là pour nous épier, pour nous surveiller, pour nous contrôler. Et de toute façon, ils ne nous chasseront pas parce que nous, on y est, on y vit et on y reste ici.
Tiens, une info pour toi. Tous les 7 ans, avant c'était tous les 10 ans, tous les 7 ans, il y a la surface d'un département français qui disparaît en terre agricole, tu sais ça? Tous les 7 ans en France. Tous les 7
dialogue,
ans,
il y a manifestant,
la surface d'un département qui disparaît en terre agricole.
La surface exploitée, mais pour la surface, elle existe toujours. Hein.
Mais non, elle existe, mais il y a du béton, du bitume, des baraques, des autoroutes, des trains, des aéroports. Ça bouffe les terres agricoles, mon pote.
Il y a toujours plus de gens sur la planète.
Eh ben alors, il y a plus de gens, on bouffe les terres agricoles. Ça tient pas à un moment, quoi. Tu veux bouffer quoi, des pilules? Ben vas-y, explique-moi comment on fait. On est de plus en plus de gens, il y a de moins en moins de terres agricoles. Comment on fait? Explique-moi. Explique-moi.
Ça résout pas le problème, tu vois, qu'il n'y aura pas d'aéroport ici, ça va changer la face. Hein.
2000 hectares. Tu verras qu'à un moment, ça va compter.
Et vous, monsieur?
C'est vrai que je suis solidaire de cette cause parce que, ben, il y a eu autrefois la cause du Larzac que j'ai défendue aussi par une chanson. Bon, moi, c'est mon truc, hein, je fais des chansons. Donc, j'ai aussi fait une chanson pour Notre-Dame-des-Landes, quoi. Hein, voilà. Puis, il y en a plein d'autres, hein, je suis pas le seul. Hein, oh là là, il y a eu plein de chansons. Puis, la chanson, c'est qu'un outil qui permet de faire divulguer et de rendre sympathique aussi une lutte. Et cette lutte, elle est bougrement sympathique. Et Notre-Dame-des-Landes, quand on voit cette terre que j'ai travaillée à Notre-Dame-des-Landes, je suis allé sur les squats, donner un coup de main assez souvent pour aider les squatteurs à produire des choux, à produire des carottes, etc. Quoi. Bon, j'allais leur donner un coup de main à enlever l'herbe parce que j'aime ça, toucher la terre végétale. Parce que je suis fils de paysan, parce que moi-même j'ai été paysan pendant 15 ans. Et voilà quoi. Hein. Et cette terre végétale qui est un petit peu collante ici, puisque c'est que de l'argile, hein, elle est très productive, hein, si on veut s'en occuper. Elle est capable de nourrir des populations entières et on va en avoir bougrement besoin dans les années à venir. Hein, parce que quand le pétrole va manquer, on n'aura plus de camions pour s'alimenter, hein, encore moins de pétrole pour mettre dans les avions.
Et là, vous allez distribuer des tracts aujourd'hui, c'est ça ?
Voilà, je vais aller distribuer ça.
Ah,
oui, pardon, oui.
Voilà,
je vais aller distribuer des tracts.
Notre-Dame-des-Landes, aéroport, non.
Je sais pas ce que je t'ai raconté. Bon, enfin bon.
Et vos chansons, on les trouve où alors ?
Alors les chansons, on les trouve sur un disque qui a été fait par Notre-Dame-des-Landes. Vous le trouverez aussi sur Internet en faisant Dominique Loquet Notre-Dame-des-Landes. Vous allez tomber sur la chanson.
Alors vous, c'est Dominique Loquet.
Oui, voilà, oui.
D'accord.
Voilà, la chanson, c'est un truc sympa, quoi. Hein, qui permet de faire connaître.
Mais est-ce que ça suffit d'être sympa ?
Bien sûr que non. Non, parce que de temps en temps, il faut être bien outillé aussi pour se battre.
Troisième sommation, nous allons être obligés d'utiliser la force.
Ma vie est en danger par des élus imbus de pouvoir. Ils veulent me massacrer et vandaliser mon terroir. Nier la position pour un projet pharaonique. Dépenser des millions pour un désastre écologique. Citoyens, sois vigilant, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyenne, sois résistante, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Citoyens, sois résistant, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyenne, sois résistante, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre, c'est la terre, c'est la terre.
Bon, les tirs tendus, bande de bâtards,
de tes enfants.
Oh merde, c'est ça. Pas assez loin.
Les vaches n'aiment pas l'avion. À Notre-Dame-des-Landes et dans le bocage alentour, et pourtant le pouvoir local, en la personne notamment de Monsieur Hérault, veulent les persuader du contraire en agrandissant l'aéroport, en faisant un transfert de l'actuel aéroport de Nantes à cette l'implanter dans cet endroit, et ça ne plaît pas à tout le monde, une résistance qui se renforce au fur et à mesure que la répression se renforce, les destructions de constructions, d'implantations, de maisons, et ça monte et ça ne faiblit pas. Le bras de fer continue. Je ne voudrais pas trop être à la place du Premier ministre actuellement.
J'étais secrétaire général du syndicat des dockers. J'ai commencé à bosser à 14 ans. J'ai arrêté avec le dispositif des départs anticipés dans l'amiante. Et puis, je suis un écologiste depuis toujours. J'étais dans les soutiens à la campagne de René Dumont et j'ai adhéré au Vert en 2004. Voilà. Et je suis opposé à ce projet d'aéroport. J'habite à Saint-Nazaire. J'ai été conseiller général de Loire-Atlantique, élu à Saint-Nazaire, pendant 3 années, de 2008 à 2011, puisque en 2011, évidemment, il y a eu une offensive du Parti socialiste pour me faire perdre ce canton. Ils ont réussi.
Gilles Denigaud.
Pourquoi ?
Bah, tout simplement, il y avait des désaccords, bien sûr, politiques, mais le socle du désaccord, c'était quand même cette question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, puisque je n'étais pas silencieux dans mon opposition. Parce que
Nous y voilà, quoi. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes dans la politique locale. Comment ça joue ?
Ben, comment ça joue au niveau local ? Nous avons un parti socialiste qui, dans sa direction, est pour, mais dans ses militants, c'est un peu différent. Ils sont ici réduits au silence, comme au niveau national aujourd'hui le sont certains ministres. Donc je trouve ça tout à fait déplorable. Donc dans la politique locale, avec ceux qui se présentent aux élections et qui ont des élus dans les exécutifs, nous trouvons qu'Europe Écologie Les Verts a s'opposé à ce projet d'aéroport, puisque le parti socialiste est officiellement et férocement pour. L'UMP est pour ce projet qui a été porté par Fillon et le Parti communiste est profondément pour ce projet. Un des vice-présidents de la région est en charge des transports, c'est Gilles Bontemps. Ils sont productivistes, plus productivistes, tu meurs, quoi. Donc là-dessus, il y a quand même un problème, y compris dans le front de gauche, puisque Mélenchon est profondément silencieux sur cette affaire-là, alors qu'avec 12% et sa grande capacité et liberté de parole, il pourrait aujourd'hui donner quand même un avis sur ce que vivent les occupants aujourd'hui. J'aime pas les appeler des squatteurs, parce que ce sont des occupants, ce sont des jeunes qui mènent un combat qui mérite le respect, qui préfigure d'une société différente. Mélenchon, on l'entend pas. Politiquement, on n'entend pas grand monde. Heureusement que les militants et les associations se mobilisent fortement. Il a quand même fallu que des gens aillent dans le courage de la politique en grève de la faim jusqu'à 28 jours. J'ai fait la grève de la faim. Avec des paysans, avec des citoyens, on était plusieurs personnes. Et il a fallu qu'il y ait cette grève de la faim au cœur de Nantes qui a mobilisé l'opinion publique et qui nous a attiré beaucoup de soutien pour que François Hollande bouge et que Jean-Marc Ayrault bouge, parce que se jouait derrière la question de la place de Premier ministre. Pas à travers seulement notre grève de la faim, mais il fallait donner une réponse. Il y a donc eu 2 jours après l'élection de François Hollande, l'accord politique du 8 mai, qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui, comme il souhaitait le faire, expulser les paysans et l'habitant au 31 décembre 2012, dans 2 mois, puisqu'il y a une obligation d'aller jusqu'au bout des recours, etc., etc. Il y a donc un sursis qui a été obtenu. Mais je dis que c'est un sursis. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y ait une remise à plat du projet. Premièrement, que ce projet soit intégré, et Jean-Marc Ayrault fait tout pour qu'il ne le soit pas, dans le SNIT, schéma pour les infrastructures de transport, que va gérer le ministre Cuvelier. Ils vont faire des choix pour décider des priorités parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour réaliser tous les projets. Mais Jean-Marc Ayrault s'arrange pour dire que les projets qui sont engagés ne peuvent pas être mis dans le SNIT pour sauver un peu son bébé. Il ne mérite pas d'être sauvé, ce bébé de Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est un monstre. Ne le sauvons pas. Et donc il essaye de l'écarter. Il faut que ce soit introduit dans le SNIT parce que d'abord, les travaux ne sont pas commencés, les autorisations ne sont pas données, les recours sur la loi sur l'eau ne sont pas encore commencés et ils vont monter jusqu'au niveau européen. Donc il faut que ce soit mis dans le SNIT et que ensuite ce dossier soit remis à plat.
Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur Cohen.
France Inter, le 24 octobre 2012.
L'objectif de tous les gouvernements européens, c'est bien évidemment la réduction des déficits. Et pour faire des économies, ne serait-il pas important de différer un certain nombre de projets d'infrastructures qui représentent des centaines de millions, voire des milliards? Et je pense aux projets que je considère inutiles, chacun son avis, comme Notre-Dame-des-Landes, étant donné que Nantes a le premier aéroport régional européen et que cela va mettre au chômage des centaines d'agriculteurs.
Merci André, et j'ajoute forte mobilisation au Standard Inter, et pas seulement au Standard, des opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Oui, mais écoutez, il y a des investissements qui sont indispensables, c'est ce qu'on appelle les infrastructures.
S'agissant de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui mobilise très peu d'argent public, puisque c'est une concession, ce n'est pas un nouvel aéroport, c'est le transfert de l'aéroport de Nantes, qui est au bord des portes de la ville, et qui va arriver bientôt à saturation, à quelques kilomètres, comme ça se fait dans d'autres pays. Donc il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan et de tout mélanger.
Patrick Varin, vous avez partagé donc les bancs de l'ENA avec François Hollande. Vous avez été directeur de la Caisse des dépôts et des consignations. Et aujourd'hui, au sujet du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous parlez de nouveau Larzac et vous appelez à redébattre de ce grand projet.
Oui, j'ai pris une position en écrivant une lettre ouverte à mon ancien camarade de promotion, François Hollande. Alors, sur deux thèmes. Le premier, c'est d'abord parce que j'étais choqué par la tournure que prennent les événements avec l'usage de la force brutale pour déloger des occupants sur la zone prévue pour l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'accepte pas de la part de ce gouvernement de gauche. Et puis, sur le fond, j'invite les pouvoirs publics, en premier chef Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, et les grands élus socialistes de la région Pays de la Loire, à rouvrir le dialogue avec les opposants à ce projet, opposants de longue date, qui effectivement ont, de mon point de vue, après avoir étudié sérieusement le sujet, des arguments à faire valoir, et notamment des alternatives possibles à ce projet qui se caractérise, à mon avis, par à la fois sa mégalomanie, bon ça c'est un petit peu polémique, mais aussi le fait qu'il n'est plus de ce temps et qu'il est totalement décalé par rapport aux besoins réels du pays.
Il y a encore plusieurs points qui posent question. Donc, c'est d'une part la révision du schéma national des infrastructures de transport qui va avoir lieu dans quelques mois.
Oui, je pense, si vous voulez, l'intention que nous avons dans nos prises de position, ce n'est pas de déstabiliser le gouvernement, de lui faire perdre la face, il n'en est pas question, mais effectivement de trouver les arguments et les procédures raisonnables pour réévaluer tout cela. Alors, la révision du schéma national des infrastructures de transport, c'est effectivement une opportunité. Encore faut-il que les pouvoirs publics acceptent de considérer que l'aéroport n'étant pas commencé, c'est-à-dire que les travaux n'étant pas commencés, il peut rentrer dans cette réévaluation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement un élément de lutte pour nous. Et puis, l'autre thème qui, à mon avis, est aussi très important et qui peut donner une opportunité de revoir le sujet, c'est l'application loyale de la loi sur l'eau, qui a fait l'objet d'une enquête publique récente, mais enquête publique, qui a émis un avis favorable à la création de l'aéroport avec des réserves importantes, et notamment des réserves sur les techniques de compensation écologique de ce qui va être perdu de manière irrémédiable sur cette zone de 2000 hectares de bocage, qui a un impact très très important sur l'équilibre environnemental de la région.
Alors, vous avez envoyé cette lettre à François Hollande, votre ancien camarade de l'ENA. La semaine dernière, avez-vous reçu une réponse, Patrick Varin ?
Non, je n'ai pas reçu de réponse, mais je n'en suis pas surpris pour l'instant, parce que, si vous voulez, j'ai envoyé cette lettre ouverte, donc elle s'est répandue beaucoup plus vite à travers Internet, à travers les divers médias qui l'ont reprise, que par le courrier postal que j'ai envoyé donc à l'Élysée. Donc je n'ai pas de réponse, mais il est évident que le moment venu, je ferai en sorte de donner autant d'écho aux réponses qui me seront apportées on en a donné à cette lettre ouverte qui m'a valu beaucoup, beaucoup de témoignages de sympathie, en vérité.
Je vis ici, je reste ici. Je vis ici, je reste ici. Je vis ici, je reste ici.
Là, on va au Limambou.
C'est pas faux que ce sont des zones humides.
C'est un mot un peu plus loin où il y a une maison qui a été expulsée et qu'ils sont en train d'essayer de raser. Et puis il y a des gens qui continuent à habiter, qui résistent là-bas.
Qu'est-ce qui se passe là ? On est à une croisée de chemin, c'est ça ? Il y a du monde là-bas.
Ouais, c'est les vaches qui sont là-bas.
Tu veux dire les vaches ?
Tu les
Ouais, elles font pas beaucoup meuh, celles-ci.
Ouais. Donc a priori c'est un barrage quoi. Hein,
ouais c'est un barrage.
La police.
Ouais. Ouais. Ils empêchent généralement tout le monde de passer. Ils demandent des papiers d'identité et puis ils nous interpellent parce que c'est leur nouvelle tactique pour cette semaine. C'est d'interpeller les gens sur contrôle d'identité et puis de les faire traîner entre les différentes gendarmeries pour épuiser les gens, quoi.
Alors tu te présentes ou quoi?
Bah, moi c'est Philippe. J'étais jusqu'à la semaine dernière occupant de Bel Air. J'ai été expulsé la semaine dernière. Bah, du coup, on a tenté de résister non violemment, quoi. Vu les forces qu'ils mettaient, c'était un peu perdu de pouvoir rester à l'intérieur de la maison. Et puis, bah, ils nous ont sortis. On a pris le temps de charger quelques affaires. Et puis après, bah, on a rejoint la lutte de ceux qui n'étaient pas encore délogés. Et là, on en est là pour l'instant. On a encore des lieux qui tiennent malgré l'opération César.
Donc l'opération là, d'expulsion des occupants, elle s'appelait l'opération César, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est...
Wow. Oula ! Bon, on est trop profond là. C'est un piège des Romains, ça. C'est ouais. Bloqué partout pour arriver à la...
Limimbou.
On peut aller voir, on peut s'approcher. Hein. Bah, moi, j'ai pas de papier.
Mais toi, tu es venu d'où ?
Bah, moi, je suis du coin, en fait. Je suis né à 30 km d'ici. L'histoire de l'aéroport, ça, j'en ai toujours entendu parler, quoi. Et quand j'ai entendu parler de l'appel à occupation, qui a été lancé à la suite du camp climat, eh bien...
Donc le camp climat, c'était à l'été 2009.
Hein. Ouais, c'était en 2009, ouais. Je suis venu occuper ici pour pas laisser les maisons abandonnées, pour lutter contre la désertification qui mettent en place. Alors que le projet d'aéroport, on est bien convaincu qu'il ne verra jamais le jour, parce qu'il est tellement absurde qu'ils sont bien en peine de mettre en place. J'avais donc 20 tars derrière la maison. Je participais aussi dans le projet du Sabot. C'est une ferme maraîchère, plus ou moins autogérée, enfin, pas plus ou moins, autogérée, quoi. Au-delà de se nourrir nous-mêmes, parce qu'on avait déjà 4 jardins collectifs, c'était plus pour distribuer sur l'extérieur.
C'est drôle d'histoire, une histoire qui gagne du terrain en dépit de silence relatif des médias, mais qui pourront pas très longtemps encore passer ça à moitié sous silence. Vous avez compris, d'un côté le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui n'ont surtout pas l'ancien maire de Nantes, promoteur local de cette histoire, de cet aéroport du Grand Ouest, AGO, filiale à 85% de Vinci Aéroports, d'un côté. Et puis de l'autre côté, tout ça doit se faire pour 2017. Et puis de l'autre côté, il y a un mélange assez étonnant et dépareillé. Alors des agriculteurs, on en a rencontré, des élus, on en a entendu, des riverains aussi, qui sont menacés plus ou moins d'expropriation. Et puis aussi, alors, c'est des squatteurs qui sont installés. Alors on dit squatteur, on disait, il faut pas dire squatteur, il a pas tort d'ailleurs, c'est un peu péjoratif que de dire squatteur, qui sont installés là depuis longtemps, pour certains, 2-3 ans, dans plusieurs maisons qui ont été vidées de leurs occupants. Et puis il y a aussi les éco-warriors, les éco-guerriers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait des reportages en Angleterre, vers Londres, je crois, si j'ai bonne mémoire, on avait rencontré ces éco-warriors qui étaient dans des arbres, avec les flics qui essayaient de grimper le long des arbres et tout. C'était des histoires assez, assez folles, mais assez violentes. Et qui sont eux qui ont des idées, qui sont contre le système. Et puis il y a aussi des touristes qui se baladent, qui viennent voir par curiosité, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Tout ça, ça fait un mélange, ça fait un mouvement, et ça n'est peut-être pas rien. Hein. Ça n'est peut-être pas rien, c'est pas seulement folklorique et classique, ce genre de lutte. Il se peut que ça connaisse des développements tout à fait considérables dans la conjoncture actuelle. On continue.
Village en danger, Vinci déporte la population. Alors ça, c'est écrit sur le toit d'un petit cabanon. Et il y a effectivement une quinzaine de véhicules, donc la gendarmerie et les gardes mobiles. Donc il n'y a que des forces de l'ordre. Et il y a un corps de ferme qui a été complètement démoli. Le toit a été effondré, des murs aussi sont détruits. Ah, il y a quelqu'un là-bas, je vais lui demander. Vous pouvez me dire ce qui se passe là?
Attends, on est au Limimbo. Depuis 2 jours, ils sont en train de détruire la maison à côté, qui avait été vendue par propriétaire à Vinci. Puis ben voilà, c'est comme ça toute la journée, avec beaucoup, beaucoup de gendarmes. Ils ont peur des opposants, qui résistent toujours.
Et vous, vous habitez là?
Moi, j'habite ici, oui.
Ah, c'est la petite maison, justement, où il y a marqué « Village en danger, Vinci déporte la population ».
Voilà, c'est ça, oui. Donc, ben, on est opposants, et ils essaient de virer les occupants, qui sont là depuis quelques années. Puis après, ça sera nous. Nous, on est expulsables aussi, parce que c'est l'État qui a racheté la maison. Et puis, ils ont suspendu mon procès au mois de septembre. Il y a eu l'accord avec les grévistes de la faim, dans lequel je faisais partie. Donc, ils ont suspendu mon procès jusqu'à nouvel ordre. Les personnes qui sont expulsées à ce moment, ils habitaient dans des maisons qui avaient été rachetées par le Conseil général et puis par Vinci, et qui étaient vides, quoi. Donc ils les ont prises dans un mouvement de résistance et ils avaient construit des cabanes sur les terrains également de Vinci. Et c'est ces personnes-là qui sont en train d'expulser maintenant et de casser les maisons, leurs maisons, quoi.
Et vous, vous êtes là depuis quand?
Moi, ça fait 15 ans que je suis là. Au aéroport, tout le monde a parlé vaguement, mais c'était abandonné et tout. Et c'est en 2000 que ça a repris. Déjà, au niveau écologique, parce que le terrain, tout ça, c'est très joli ici. On ne voit pas du tout l'obligation de refaire un autre aéroport alors qu'il y en a un qui est très bien sur Nantes. Arrivé à un moment, on s'est aperçu que tout seul, on n'y arriverait pas. On n'était pas très nombreux, donc il y a eu un camp climat ici. À ce moment-là, on a fait un appel à demander aux gens de France et d'Europe de venir nous aider et de venir occuper des maisons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des gens qui sont arrivés et puis qui ont réussi à s'installer. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Il y a un boulanger, tiens, les RG qui passent là. Il y a un boulanger qui s'est installé sur la ZAD, qui a été obligé de se replier dans une maison légale, entre parenthèses.
La ZAD, donc ici on est au milieu de la ZAD,
ouais,
hein. c'est la zone d'aménagement différé,
voilà, c'est ça.
Rebaptisée zone à défendre.
Hein, c'est ça, voilà. Il a déménagé son cours dans un endroit plus sûr et il fait du pain le lundi et le jeudi pour nourrir tous les camarades qui sont en lutte.
Il y a combien de camarades alors qui sont venus, comme ça, de sympathisants, qui s'installent?
Il y avait une centaine qui sont là depuis 3 ans, qui s'étaient installés. Et puis là, pendant les expulsions, il y a au moins entre 150 et 200 personnes quand même qui sont arrivées de toute la France, en renfort, oui. Enfin, une centaine en plus, quoi. Donc ils sont stationnés à la vacherie où ça fait un truc, et puis quelques maisons où ils pourront avoir du recul un peu, quoi.
Et vous, vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis cuistot à mi-temps, dans une collectivité, et autrement, dans mon autre mi-temps, on essaye de s'auto-nourrir. C'est-à-dire, on élève 2 cochons, des poulets, des poules, puis on fait un jardin.
Donc quand vous dites « on », c'est vous êtes en famille ici?
Ouais, avec ma compagne, et puis mes 2 enfants, et puis des camarades. On collectivise nos savoirs, et puis avec les personnes qui habitaient sur la ZAD, ils viennent donner des coups de main, enfin, avec les jardins et tout. J'ai trouvé du travail à Trayères, j'habitais en Vendée, et puis donc j'ai trouvé cette maison, donc on était venus là en espérant y rester. Puis on est éjecté pour du pognon, des mégalos, etc., etc. Voilà, ma compagne.
Et vous êtes dans une des organisations là?
Non, on s'est appelé à un moment des habitants qui résistent. On n'est pas dans les organisations officielles. On est au milieu. Avant qu'il y ait les occupants, on était un peu plus radical que les gars des organisations officielles.
La CIPA, c'est
ouais, ça? Oui, la CIPA, la coordination, tout ça. Qui font un bon travail, mais pas sur le terrain, c'est plus du juridique, des trucs comme ça. Donc nous, on pensait qu'il valait mieux se battre sur le terrain pour arriver à quelque chose, au moins pour les retarder. Et puis après, bon, quand on a fait l'appel, c'est nous qu'on a fait l'appel pour appeler les camarades. On leur doit beaucoup pour l'instant, parce que s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on serait morts déjà. S'il y a tous ces gargouillons de flics et compagnie, c'est grâce à ces personnes-là, parce que les autres, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Hein, c'est pas gagné, ils sont venus à plus de 600 ou 800. Le mardi à 10h, le préfet il a fait une conférence de presse en disant que tout était fini, que tout était plié. Ça fait quand même presque 15 jours qu'ils sont là. C'est des trucs de fou. Hein.
Tu crois qu'on va te laisser l'allumer maintenant que tu l'as dit? Allez, dehors!
Les vaches n'aiment pas l'avion. C'était la première partie de ce reportage d'Antoine Chao. Merci Agnès Bellot, Sylvain Fresneau, Patrick Varin, Gilles Denigeot, Claude Herbin, Dominique Loquet, et puis à tous les zadistes, Jean-Mi, Marjorie, Charlie, Philippe, Jérôme, Christelle, pour tout savoir sur la manif de réoccupation du 17 novembre, allez sur zad.nadir.org. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, évidemment, la-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de l'émission. Philippe Duclos et Grégory Vallon étaient à la technique aujourd'hui. Lucie Acoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulto et Marion Dupas. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 152 millions d'euros. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Radio France, partenaire de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées du 12 au 18 novembre. Il y a des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines. Et puis, il y a une semaine formidable, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. Rendez-vous du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Renseignements radiofrance.fr.
France Inter, partenaire de l'opéra Médéa au Théâtre des Champs-Élysées. La chorégraphe berlinoise Sacha Waltz offre une vision puissante, féminine et dévastatrice de Médée, interprétée par la soprano Caroline Stein sur une partition pour instruments anciens de Pascal Dussapin avec l'Académie Für Alte Musik Berlin et le Vocal Concert Berlin. Retrouvez Médéa les 9 et 10 novembre au Théâtre des Champs-Élysées dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Les infos, Sophie-Marie Lemaire. Salut.
C'est une bonne nouvelle pour la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes a fortement baissé le mois dernier. 55 vies ont été sauvées par rapport à octobre 2011, soit une chute de la mortalité routière de plus de 15%. Deux conducteurs de la SNCF ont été agressés hier soir par des voyageurs pris dans les perturbations du réseau Nord de Paris. L'un d'entre eux a dû être hospitalisé. Il sort tout juste de l'hôpital. Quelques 50 000 personnes se sont retrouvées bloquées hier soir dans les trains suite à un incident technique. Le ministre des Transports demande un rapport détaillé sur les faits au patron de la SNCF. Le gouvernement en a fait une de ses mesures phares contre le chômage. François Hollande a assisté ce matin à la signature des tout premiers emplois d'avenir. Ce dispositif doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes, pas ou peu qualifiés. Le gouvernement table sur 150 000 contrats de ce type signés d'ici la fin 2014. Plusieurs centaines de Français ont décidé de poursuivre les agences de voyage Thomas Cook et France Marathon en justice. Ces Français avaient l'intention de courir le marathon de New York. Ils avaient tout acheté, billets d'avion, hôtel, dossard, auprès de ces agences de voyage, cela pour 3000 euros en moyenne. Oui, mais voilà, avec le passage de l'ouragan Sandy la semaine dernière, le marathon a été annulé. Et nos coureurs déçus souhaitent aujourd'hui se faire rembourser, Ariane Grissel.
À en croire leur avocat, s'ils avaient su, eh bien, ils ne seraient pas venus. Ces marathoniens se doutaient bien que Sandy risquait de jouer les troubles fêtes. Mais quand ils ont cherché à en savoir plus, les agences de voyage se seraient montrées rassurantes. Trop rassurantes, maître Dimitri Pinsan.
Vous avez comme première nouvelle que votre hôtel est inondé. Vous vous dites que le reste sera probablement à l'avenant. Et donc, vous prenez une décision raisonnable, vous demandez l'annulation du séjour. Or, on n'a pas donné cette information.
Quant à l'idée d'annuler,
certains y ont pensé. Certains l'ont même décidé et écrit, et la réponse des agences de voyage a été, contrairement aux prévisions légales, ce n'est pas possible, vous allez perdre le prix. Quand on vous dit, je vais perdre 3000 euros, eh bien, vous partez.
Tous les sportifs ne partagent pas la même rancœur. Bruno, lui, est aussi allé à New York, et le marathon, il l'a couru avec trois amis. Pas l'officiel, bien sûr, mais c'était presque mieux.
C'était extraordinaire, des gens qui faisaient la queue aux stations d'essence avec des jerrycans, et come on, come on. Et tout le long du parcours, on rencontrait des gens, et arrivé dans Central Park, il y avait 10, 15 000 personnes qui couraient. Chacun avait fait son marathon à sa sauce, quoi.
Si les Français qui réclament aujourd'hui le remboursement de leur forfait n'en ont pas fait autant, ils ne sont pas non plus restés cloîtrés à l'hôtel. Certains sont allés prêter main forte aux sinistrés, bien conscients qu'ils n'étaient pas les victimes de Sandy les plus à plaindre.
Moins loin que New York, c'est la première destination touristique d'Europe et elle enregistre un nouveau record de fréquentation. Il s'agit de Disneyland Paris qui a accueilli 16 millions de visiteurs cette année, soit 400 000 de mieux que l'an dernier. Euro Disney qui termine toutefois 2012 dans le rouge avec une perte nette de plus de 85 millions d'euros. 16h passées de 3 minutes sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Sophie-Marie Lemaire. Et puis à demain peut-être, déjà à 17h.
Oui, déjà à 17h.
Ouais. Au revoir. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Avant d'accueillir notre prestigieuse invitée, deux annonces. Alors, ça se passe demain à l'église Saint-Roch à Paris. C'est dans le premier arrondissement de Paris, rue Saint-Honoré, 296. Et alors, il y a un compositeur qu'on aime beaucoup, qui est extrêmement savant et qui est formidable pour pas mal de raisons, mais aussi parce qu'il est le professeur de Richard Lornac, notre pianiste du matin. Vous savez, dans l'émission, on va tous y passer. Donc, il fait une création, une fresque oratorio demain. Stéphane Delplace va donner une création mondiale à l'occasion du 500e anniversaire de la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Donc, alors on peut écouter cette musique. Il y aura Jérôme Pernaud, violoncelle, Pierre Méa à l'orgue, le chœur de Sainte-Marie des Batignolles, maîtrise Saint-Christophe, enfin plein de gens tout à fait superbes. Et c'est à 20h30 à l'église Saint-Roch, bien connue dans le premier arrondissement. Je vous engage à y aller si vous avez envie d'entendre une œuvre récente, tout à fait accessible et puis superbe. Et d'autre part, en Gironde, à l'Aréole, dans l'Entre-deux-Mers, dimanche 11 novembre, à l'abbaye des Bénédictins, à 16h30, un grand pianiste espagnol, Luis Fernando Pérez, qui va donner des œuvres de Granados, Liszt, Schumann et Rachmaninoff. Et après ça, comme c'est un endroit viticole, évidemment, on peut déguster le bon vin proposé par les amoureux du vin, ceux qu'ils fabriquent, les viticulteurs, les marchands, les négociants, et tout ça. Voilà, je garantis une ambiance extrêmement cordiale et conviviale. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de saluer Katia Bouniatichvili. Bonjour Katia.
Bonjour,
qui nous fait le grand plaisir de venir malgré un voyage épuisant parce que vous arrivez du Japon là carrément.
C'est vrai, oui. J'ai un gros jet lag mais ça va aller.
Un gros jet lag. Bon ben voilà, le décalage horaire, mais bon, il y a de l'eau. C'est tout ce qu'on on propose ici dans ce studio.
Déjà.
Peut-être ça aide un tout petit peu. Et puis votre joie de vivre naturelle, votre sourire, tout ça fait que vous amenez déjà, même fatigué, vous amenez déjà beaucoup de plaisir et les auditeurs vont pouvoir entendre votre sans disque, Frédéric Chopin. Mm-hmm. Et alors, c'est un voyage important parce que vous avez aussi signé un petit commentaire visuel. Il y a un voyage à Varsovie. Enfin, pour vous, Varsovie, c'est quel genre de ville? Vous êtes géorgienne, donc évidemment, ouais. C'est une culture qu'on connaît. On a suivi les péripéties un certain été. La Russie a été un petit peu proche de la Géorgie. On sait bien qu'il y a eu du mouvement de ce côté-là. Et puis que représente donc la Pologne et Varsovie? Chopin avant tout, je pense, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est Chopin d'abord et après tout ce qui est autour de lui. En fait, Varsovie, c'était symbolique, en fait, Varsovie et Paris. Donc, je voulais montrer deux pays qui étaient très importants pour Chopin, la Pologne et la France. Et puis, tout simplement, montrer deux cultures dans une seule personne, ce qui est souvent le cas de grands compositeurs ou des gens, des personnalités en général. Moi-même, j'habite en France, je suis géorgienne. Parce que je crois le mélange de ces deux pays, déjà, je trouve très intéressant, non seulement dans la musique, mais aussi dans le cinéma. Il y a beaucoup de metteurs en scène et réalisateurs. Mes préférés sont polonais, qui ont fait les films en français, etc., comme Polanski ou Kieślowski. Donc j'ai grande admiration pour ces deux pays. Donc je voulais faire symboliquement montrer Varsovie, Paris, mais ce n'était pas seulement ces deux villes qui sont importantes dans la ville de Chopin, mais tout simplement montrer ces deux cultures, mélange de ces deux cultures.
Vous-même, vous avez appris la musique où ça?
À Géorgie.
en Géorgie.
Oui.
Et c'est venu par les parents, c'est venu comment par,
C'est venu par ma mère, je dirais. Mon père, il était ravi que j'apprenne la musique, mais ce n'était pas lui qui m'a amenée vers la musique. C'est ma mère qui n'était pas... qui n'est pas musicienne professionnelle, mais elle est grande admiratrice de la musique classique, du jazz, musique folklorique, en général, bonne musique.
Ouais,
et puis, oui, et puis elle est très douée elle-même, donc elle nous a fait commencer avec ma sœur de chanter d'abord, après jouer l'instrument, et après ça s'est continué comme ça. Avec les professeurs, bien sûr. Et...
Nous, on va continuer à vous découvrir. Évidemment, on vous connaît, vous avez un nom déjà très très important dans le monde musical. Mais on va entendre ce disque avec la deuxième sonate pour piano de Frédéric Chopin, qui est surtout connu pour sa marche funèbre, mais il y a d'autres mouvements aussi. En voici un dont le rythme est assez haletant, c'est le premier, et on va entendre presque battre le cœur de Chopin, de manière un peu saccadée.